c'est un message très fort que le représentant de sa sainteté a redit ce matin et que le pape lui-même était venu dire lors du sommet de novembre 2009 et traitant du développement global de l'homme et pas seulement de la satisfaction de ses besoins matériels. C'est quelque chose qui, à la FAO, nous interpelle d'abord parce que on a toujours eu le soutien très fort de sa sainteté, de son prédécesseur aussi, Jean-Paul II, qui avait fait des déclarations très fortes de soutien à l'action contre la faim. Cette dimension qui signifie qu'au-delà de la satisfaction des seuls besoins matériels, il y a d'autres enjeux de solidarité qui sont indispensables, et notamment, comme l'a dit le pape dans son message, de solidarité entre pays riches et pays pauvres, c'est un des fondements de la FAO.
Est-ce qu'il y a toujours plus de personnes affamées finalement dans le monde ?
Fin 2009, nous comptions 1 milliard de personnes dans le monde souffrant de la faim, c'est-à-dire globalement 1 personne sur 6, ce qui est énorme. La situation a un peu évolué dans le bon sens cette année, puisque nous sommes un peu en dessous 1 milliard selon les dernières estimations. Mais cela étant, c'est toujours un chiffre trop important et qui révèle vraiment une grave crise alimentaire à l'échelle mondiale.
Est-ce que finalement, vous arrivez à créer l'unité autour de cette lutte, de ce combat ?
C'est un enjeu tellement important que toutes les énergies sont nécessaires pour relever le défi qui est devant nous, puisqu'à l'horizon 2050, il va falloir être en mesure de nourrir 9 milliards de personnes sur Terre, alors qu'il y en a un peu plus de 6 milliards aujourd'hui. Et pour ça, il faut qu'on augmente la production agricole de 70%. Ça justifie la mobilisation de tous, de tous les acteurs possibles qui sont engagés dans ce combat.
Est-ce que vous avez, vous, la FAO, des difficultés en cette période de crise économique ? Est-ce que les circuits sont troublés par cette crise économique ?
Les pays donateurs ont moins de ressources à mettre à disposition de ces actions et donc on sent un certain rétrécissement des moyens qui sont alloués notamment sur tout ce qu'on appelle dans notre jargon les ressources extra-budgétaires qui correspondent à des projets réalisés à la demande d'un certain nombre de pays. Et puis on voit aussi, lié à la crise économique, lié à la crise alimentaire, des nouveaux enjeux qui se dessinent autour de l'achat ou la mise en valeur de terres dans d'autres pays par des pays qui eux-mêmes sont en déficit de production. Donc il y a un certain nombre de cartes du jeu qui sont en train de changer et on vit actuellement de profonds bouleversements sur à la fois les marchés et sur la partie terre et ressources.
On se rappelle les pays du G8 qui avaient dit qu'ils octroieraient 20 milliards de dollars, si je ne m'abuse, au développement agricole. Donc il y a de ça en 2009, je crois. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ces pays se manifestent ?
Effectivement, c'était donc lors du sommet du G20, en fait, à L'Aquila, en 2009, que les engagements ont été pris par les pays développés de financer à hauteur de 20 milliards de dollars la lutte contre l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, cette somme n'est pas versée, n'a pas été mise sur la table. Elle a commencé à être versée par un certain nombre de pays. Mais évidemment, le processus d'engagement est trop long par rapport aux besoins et à la nécessité de réagir le plus rapidement possible face à ce drame de la malnutrition.
Dans son message, le pape parle du droit à la sécurité alimentaire. Est-ce que ce droit à la sécurité alimentaire a été intégré finalement comme une véritable liberté, comme la liberté d'expression ?
Dans l'absolu, probablement. En pratique, c'est vrai que les pays avancent à des rythmes très différents sur cette notion notion de droit à l'alimentation. En soi, c'est le premier des droits de l'homme, celui de se nourrir, d'être en mesure de se nourrir. Ensuite, quand on le décline sur un plan opérationnel avec le cadre qui a été mis en place au niveau international autour de ce droit à l'alimentation, les progrès sont plus lents. Mais là encore, heureusement, nous voyons sur le terrain des réalisations, des progrès réels. Et si globalement on se réfère en fait à ce qui marche en matière d'alimentation, de droit à l'alimentation, de lutte contre la malnutrition, on constate quand même des belles réussites ici ou là dans de nombreux pays. Et c'est ce qui nous rend et nous maintient optimistes dans la mesure où on sait ce qu'il faut faire, on sait comment le faire, on sait avec quelle technique le faire. Ce qui manque le plus souvent, c'est effectivement les moyens financiers, parfois un peu de volonté politique. Mais vraiment, les exemples de réussite sur le terrain montrent que, en dépit de l'importance du challenge et des enjeux, nous sommes en mesure de relever ces défis si tout le monde reste uni contre la faim.
On met souvent le doigt, l'accent sur une attention qui serait un peu détournée des besoins des populations locales, donc des besoins finalement très différents. Est-ce qu'on arrive finalement à cibler maintenant et pas avoir une vision d'ensemble ?
Oui. C'est une des évolutions importantes de ces dernières années, qui fait partie d'ailleurs aussi de la déclaration de l'Aquila au moment du G20. C'est d'avoir des interventions davantage ciblées, comme on dit en jargon onusien, demand-driven, c'est-à-dire conduites par les pays qui reçoivent eux-mêmes, c'est-à-dire en fonction de leurs réels besoins. Et ça, c'est vraiment maintenant une ligne d'action qui prévaut dans tout ce qui est mis en œuvre. Beaucoup critiqué par le passé le fait que les programmes pouvaient être décidés d'en haut et ensuite imposés sur le terrain. C'est une notion qui disparaît maintenant avec nouvelle approche de l'appui et du développement, et aussi une prise en main par les pays qui reçoivent eux-mêmes de ces programmes.
Est-ce que les changements climatiques sont quelque chose à prendre en considération ? Est-ce que ça va faire évoluer également le niveau de la faim dans le monde ? Est-ce que ça va avoir des répercussions ?
On le prend en compte autant que l'on peut, mais on le prend en compte avec en fait deux grands phénomènes qui sont attendus de ces changements climatiques. Le premier, c'est des événements climatiques plus forts, des accidents climatiques plus forts et plus nombreux au cours des prochaines années. C'est un premier point. Donc des catastrophes naturelles pouvant être plus nombreuses, auxquelles il faut aussi pouvoir faire face. Le deuxième aspect, c'est que l'impact le plus défavorable du changement climatique va se passer dans les régions qui ont aujourd'hui déjà le plus de difficultés à nourrir leur population, et ce changement climatique va encore resserrer les contraintes de production. Et donc d'ores et déjà, on est obligé de prendre ces évolutions en compte pour adapter les systèmes de production en fonction de ces perspectives climatiques encore plus défavorables.